Bonjour à tous, c'est le moment de retrouver Histoire d'Archives, cette belle émission mensuelle avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives, et Marie Brunel, directrice adjointe des archives départementales des Alpes de Haute-Provence. Bonjour.
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 Alors vous allez nous parler des archives évidemment et de leur entrée en scène aujourd'hui.
Exactement. Donc, on est venu donc pour évoquer notre actualité, qui est très brûlante, puisque c'est ce soir que nous inaugurons à la fois l'extension donc des archives départementales et puis donc une nouvelle exposition. Je laisserai la parole donc à Marie Brunel pour la partie sur l'exposition. Juste un mot quand même sur l'extension, puisque c'est une aventure qui s'est étalée sur plusieurs années. Nous étions saturés d'archives en fait. On a un peu plus de 11 km actuellement dans nos anciens magasins, nos 8 magasins, qui ne disposaient plus de moindre mètre linéaire pour y mettre des archives. Donc on était dans une situation un peu compliquée. Donc on avait réussi un peu à densifier nos magasins, à rajouter ce qu'on appelle nous des tablettes, donc pour des gains de place. On avait aussi deux annexes. On était donc au bout un peu de nos possibilités de conservation et il était donc nécessaire qu'on puisse bénéficier d'une extension. Une extension qui était d'ailleurs prévue dans le projet initial. Donc il y avait la réserve foncière et le projet initial prévoyait donc la possibilité de rajouter donc des kilomètres linéaires. Vous savez qu'on compte en mètres linéaires et en kilomètres linéaires, donc en largeur de boîte. Donc 10 boîtes, ça fait 1 mètre linéaire. Aujourd'hui, donc, on peut dire qu'on est très satisfait puisqu'on a un nouveau bâtiment donc, qui est accroché à l'ancien, qui communique avec l'ancien et qui dispose de 9 magasins. Actuellement, 5 magasins, donc une colonne, parce qu'en fait c'est en deux colonnes, une colonne est équipée. Et donc on a la possibilité aujourd'hui d'accueillir les archives publiques du département, donc qui sont produites ou reçues par les administrations, et puis aussi des archives privées. Voilà. Et puis ça a aussi un autre avantage, c'est que ça nous permet aussi de réorganiser un peu nos fonds, puisque quand vous êtes dans une situation très précaire comme on l'était, vous essayez de boucher des trous un peu partout, donc on disperse les fonds. Donc là, l'objectif, c'est ce qu'on a commencé depuis mars, depuis en fait l'ouverture concrète de l'extension, de recomposer des séries qui se suivent, qui se complètent, pour qu'il y ait une cohérence dans la conservation. Voilà. Et puis par ailleurs, ça nous permet aussi de prendre en compte aussi un facteur qui est très important, qui est la protection de nos archives, c'est-à-dire on avait des archives très précieuses qui étaient au rez-de-chaussée, et donc il y a toujours un risque d'inondation, puisque le risque principal, ce n'est pas tellement le feu pour nous, c'est plutôt l'eau, soit par le haut, par le toit, soit par une montée des eaux. Et donc on a déplacé aussi nos archives les plus importantes, alors si on peut dire, parce que c'est très compliqué de savoir ce que c'est que les archives, au moins les archives les plus anciennes, puis la série la plus complète, qui est celle des notaires, en fait, qui est la plus importante en volume, donc de la monter au deuxième étage, pardon, et donc comme ça de garantir un peu mieux sa protection, sachant qu'en bas on mettra plutôt des archives qui ont beaucoup moins d'importance, des archives contemporaine. Vous voyez, ça a beaucoup d'avantages. Un, on peut recevoir des archives, et deux, on peut réorganiser nos fonds. Voilà. Cette extension sera inaugurée donc ce soir à 17h, et elle précédera donc l'inauguration donc de notre prochaine exposition. Et là, je laisse la parole donc à Marie Brunel pour évoquer celle-ci.
Merci beaucoup. Avant de vous parler de notre exposition Les Archives entrent en scène, je vous propose quand même de vous présenter très rapidement le programme culturel que vous propose les archives départementales pour le début de l'année 2026. Donc, outre l'exposition, donc Les Archives entrent en scène, vous pourrez voir l'exposition Vos papiers, s'il vous plaît, jusqu'au 13 février. Par la suite, pour la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposerons aussi deux autres expositions, mais on aura l'occasion de vous en reparler prochainement. Au niveau de nos conférences, nous avons une première proposition le jeudi 22 janvier à la salle des associations des MES. Alors, je dis bien les MES parce que je me fais disputer chaque fois que je dis les MES. Donc, ce sera sur la vie rurale au MES, dans les basses Alpes à la fin du XVIIe siècle et au début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas une conférence, c'est une lecture d'archives, donc par les comédiens de la Mobile Compagnie. Le deuxième événement que nous vous proposons, ce sera donc cette fois-ci bien une conférence qui aura lieu aux archives départementales le jeudi 29 janvier à 18h. qui sera présentée par Jean-Loup Fontana, conservateur du patrimoine, sur le thème « Parcourir la Haute-Provence sur rail ou par la route ». Toute une aventure. Enfin, le jeudi 5 février, on s'avance un peu sur le mois de février, à 20h, aux archives départementales aussi, nous aurons donc la conférence de Yanis Nassef, professeur agrégé et docteur en géographie, qui s'intitule « Quand sonne le glas du village, une géographie des villages abandonnés en montagne ». Pour cette dernière conférence, en fait, c'est une reprogrammation d'une première conférence qui a eu lieu cette année, mais qui a eu tellement de succès qu'on a dû refuser des gens. Voilà, donc pour des raisons de sécurité dans notre salle, c'est une très très belle conférence. Je vous encourage vraiment à venir, Monsieur Nassef parle admirablement bien des villages abandonnés. Pensez à réserver. Voilà, pensez à réserver parce qu'on a un certain nombre de places qui est limité. Donc, pour être sûr d'avoir une place et de ne pas être frustré, appelez-nous. Voilà, pour confirmer votre venue. Et ce soir, donc ce jeudi 11 décembre 2025, a lieu donc l'inauguration de l'extension des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence à Digne. Et bien sûr, le vernissage de l'exposition « Les archives entrent en scène ». Donc cette exposition vous est présentée jusqu'à à peu près aux vacances de la Toussaint 2027. Donc vous allez avoir le temps de la découvrir et de la redécouvrir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Cette exposition, elle va vous parler de nos métiers et de nos documents. Alors, parler des archives, c'est toujours un petit peu difficile, en tout cas les mettre en exposition, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on parle de documents, majoritairement de documents administratifs. Et là, je sais qu'on généralement, on perd la moitié du public culturel parce que le document administratif a quand même la réputation d'être aride, d'être difficile d'accès, de manquer. Voilà, c'est pas très pétillant comme sujet. Donc déjà, le mettre en exposition, c'est pour nous, archivistes, difficile. Et là, parler en plus de nos métiers, de nos actions au quotidien, c'était quand même un sacré défi. Donc, pour essayer de faire au mieux et de rendre ça vraiment attractif, on a décidé de rendre nos documents et nos métiers un petit peu glamour. Donc on a décidé de construire notre exposition autour d'un parallèle avec les métiers du cinéma et le cinéma. En se présentant, nous, archivistes, comme des opérateurs techniques ou des gens comme dans le cinéma, formant les acteurs, prenant soin d'eux, leur faisant passer des castings, de manière à ce que nos acteurs archives donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et dans une seconde partie, on vous présente justement les archives et les histoires qu'elles nous racontent. Voilà, donc là, c'est vraiment les archives en scène. Qu'est-ce que l'on peut lire, quelles histoires on peut lire à travers les documents d'archives. Donc on en a sélectionné une douzaine, enfin les collègues en ont sélectionné une douzaine, chacun a travaillé sur alors soit la mise en valeur de leur métier, soit la mise en valeur de leur petit document chouchou, voilà, qui permet de parler, enfin tout ça permet de parler à la fois de nos métiers et puis du côté aussi passion de nos activités.
On a deux parties, en fait, hein, dans cette exposition, qui est d'ailleurs accompagnée d'un catalogue, hein, qu'il faut le dire, donc qui fait 156 pages, voilà, qui est gratuit, hein, qui est donc distribué gratuitement, qui donc sera disponible dès ce soir, d'ailleurs, pour ceux qui viendront à nos inaugurations. Donc il y a deux parties, hein, une partie, effectivement, sur les métiers. Qu'est-ce que c'est qu'un archiviste? Quelle est sa pratique quotidienne? Comment travaille-t-il? À partir de quels matériaux? Selon quels principes? Voilà, donc tout ça est évoqué dans la première partie. Et puis une seconde partie, effectivement, où des agents des archives départementales ont fait le choix d'un document pour raconter une histoire. Alors qu'une histoire, évidemment, qui s'appuie sur un document réel, hein, donc ce n'est pas une invention. Alors soit ce sont des documents écrits, qui peuvent être d'ailleurs pas forcément en français. Hein, on en a un qui est en hébreu, hein, qui est écrit, qui concerne en fait un mariage d'un couple juif. Et puis il y a aussi des documents photographiques, etc. Voilà, donc un peu qui montre aussi la variété des histoire qu'on peut évoquer à partir de divers documents prestigieux comme par exemple notre très beau rouleau qui concerne donc Saint-Paul-sur-Ubaye, qui a trait donc aux transhumances, qui est un document qui est très important et très long, puisque c'est un ensemble de parchemins qui ont été cousus ensemble donc pour former ce document. Et puis il y a des documents beaucoup plus ordinaires qu'on trouve à foison dans les boîtes d'archives quand on ouvre une boîte. Et donc voilà. Donc tout ça, c'est l'objet même de l'exposition. Et donc, qui présente aussi donc dans l'exposition les histoires qui sont racontées et puis donc qu'on retrouve dans notre publication. Pour faire simple, je redonnerai la parole à Marie Brunel. Pour faire simple, on a laissé libre cours aux agents pour raconter leur mission en fait, comment leur pratique. Alors je vais prendre juste un exemple. L'agent qui s'occupe de dépoussiérer, de défroisser, de reconditionner, raconte son métier, mais de manière un peu, justement en prenant en compte l'angle qu'on avait choisi, donc qui est celui du spectacle, du cinéma, du spectacle, etc. Donc avec le vocabulaire qui est adapté à ce milieu, à ces milieux. Voilà, donc elle prend en fait un document et elle raconte aussi ses états d'âme par rapport à ça, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'elle ressent, puisqu'à la fin, on demande à chacun dans un petit encadré de dire pourquoi il a choisi ce document. Voilà. Donc les motivations sont très, très, très variées, comme vous pouvez vous en douter. Ça va de l'émerveillement, de découvrir un document, d'ouvrir une boîte, de défaire un lien et de découvrir quelque chose qui raconte une vie, à un document qui a plutôt un intérêt historique, qui raconte un pan d'histoire, qui peut être d'ailleurs tragique, pas forcément. On a un peu de tout. Enfin voilà, ça va de la rixe en alpage, donc pour l'histoire de Saint-Paul-sur-Ubaye. Vous voyez, la colère de Dieu. Alors la colère de Dieu,
c'est la comète.
C'est la comète, voilà. Donc la comète, qui est envisagée comme quelque chose, comme une punition divine. Voilà, donc la peste en Provence en 1630. L'histoire aussi d'un enfant abandonné, qui devient un gendarme, qui a une carrière, qui est gendarme à Barème, en l'occurrence. Donc on a toutes ces histoires qui sont racontées. Après, justement, cette partie qui est intitulée par... c'est Marie Brunel qui a choisi les titres. Une vie de star, une vie d'archive, de la collecte à la communication. C'est-à-dire, en fait, tout le processus qu'on met en œuvre aux archives départementales, puisque d'abord, on appelle toujours les 4 C, ce qu'on appelle donc la collecte, qui est donc récupérer les archives qu'on doit conserver. Donc, je rappelle qu'en fait, le principe des archives, c'est qu'on a ce qu'on appelle les archives courantes et intermédiaires. Quand elles sont intermédiaires, elles restent encore dans les services, et à ce moment-là, se pose la question de leur sort, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et donc, tout ça est raconté aussi, peu d'appelés, pas beaucoup d'appelés, peu d'élus, etc. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'elles deviennent. Une grande partie des archives aujourd'hui est détruite, en réalité, puisqu'on détruit environ 2 km, un peu plus de 2 km linéaires d'archives publiques dans le département chaque année. Et on en conserve donc ce qu'on appelle les archives définitives. On disait autrefois les archives historiques. On en conserve environ 200 mètres linéaires sur une année. Vous voyez, donc le ratio est plutôt en faveur de la destruction, parce qu'évidemment, on est incapable, on n'aurait pas la possibilité de tout conserver, et puis ça n'aurait pas un intérêt formidable.
Comment vous choisissez les 2 km à supprimer ? C'est très difficile.
Ah oui, c'est très difficile, et puis surtout, c'est une très grande responsabilité. De voir en fait signer l'acte de décès du document d'archives, enfin des documents d'archives. Donc alors pour ça on a différents outils. Chaque administration s'occupe de créer normalement, enfin avec notre aide, des tableaux de gestion qui les aident à savoir combien de, enfin déjà définir tous les types de documents, toute la typologie documentaire qui est produite dans dans leur service et surtout de savoir combien de temps il faut les garder, quels sont les délais de prescription en fait, et combien de temps donc ils doivent les garder chez eux, combien de temps ils doivent être archivés dans des locaux spécifiques quand ils ont dépassé leur stade d'archives courante, quand elles passent donc, comme le disait Jean-Christophe Labadie, au stade d'archives intermédiaire, et puis passer justement ce temps de la validité juridique, ce que les archivistes appellent le sort final. C'est très très sentencieux comme expression où on va dire les archives doivent être détruites ou si elles doivent être versées aux archives départementales. Voilà, donc c'est un travail qui se fait sur la base soit de circulaires ministérielles ou sur la pratique des métiers. C'est toujours un travail qui est fait en concertation avec les services. Et nous-mêmes, c'est un document donc qui doit être validé. Je parle du tableau de gestion qui doit être validé par le chef de service et par le directeur des archives départementales. Et c'est sur cette base-là que doit être organisé l'ensemble de l'archivage dans les services producteurs. Voilà. Et à partir de là, quand on a séparé donc les archives qui sont éliminables et les archives qui doivent être versées aux archives départementales, les services produisent ce qu'on appelle un bordereau d'élimination, qui est en fait une liste avec les numéros des cartons concernés, une description du contenu des différents dossiers, ce qu'on appelle aussi les dates extrêmes, c'est-à-dire la date d'ouverture du dossier et de clôture du dossier. Généralement, on rajoute les références à la circulaire ou au tableau de gestion de manière à ce que le directeur ou son adjointe puisse vérifier très rapidement si tout est en ordre. À partir de là, on signe et quand on signe, c'est une autorisation de destruction. Et après, l'administration doit procéder à la destruction matérielle des documents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le mettre au recyclage à la benne jaune, hein. Ce n'est pas du tout ça. Il faut que les archives soient physiquement détruites pour éviter que, après, peut-être des curieux ou des personnes mal intentionnées puissent récupérer des documents, des informations qui parfois sont confidentielles et puissent les utiliser. Donc là, on insiste beaucoup auprès des administrations sur le fait que les archives, quand le bordereau d'élimination est signé, elles doivent être physiquement détruites.
Voilà, donc c'est le processus, hein, voilà, le processus classique. Donc ça, c'est pour les archives d'aujourd'hui, hein, donc, et ce qui occupe en fait une grande partie du service en réalité. Hein, donc on a toujours une image des archives un peu dans l'action culturelle, éducative, mais en réalité, la plupart des agents travaillent vraiment sur ces questions-là, donc ce qu'on appelle donc les archives publiques. La gestion qui, effectivement, comme le disait donc Marie Brunel, est conditionnée par des textes réglementaires donc, qu'on applique. Par exemple, on ne conserve pas les factures au-delà de 10 ans. Donc au bout de 10 ans, on peut les détruire, donc la 11e année, à partir de la 11e année. Mais en revanche, on peut quand même les conserver. C'est-à-dire que la règle, c'est de se dire aussi qu'on ne peut pas détruire ce qu'on doit conserver, mais on peut tout à fait conserver ce qu'on pourrait détruire. Ce qui fait qu'on, justement, avec les services, on adapte les tableaux de gestion aussi, par rapport aussi à leurs propres contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative d'un document dans un service dépasse le terme réglementaire, parce que le service en a besoin plus que ce qui est prévu. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, quant au sort final, on peut considérer qu'un document qui serait détruit normalement peut être conservé parce qu'il a un intérêt historique, oui, parce qu'il raconte quelque chose. Voilà, un dossier de, par exemple, quelqu'un qui a fait quelques bêtises dans sa vie, voyez, qui pourrait être détruit parce qu'on arrive au bout, ben on peut considérer que comme il est fort intéressant dans son contenu, ben de le conserver. Voilà, on a des dossiers comme ça qu'on détruit, on en détruit un sur deux, mais on peut tout à fait considérer qu'ils sont tous intéressants et les conserver ou de garder une année, voyez, pour avoir un échantillon statistique. Parce que la question qui est derrière, c'est quand on échantillonne, parce qu'on peut aussi échantillonner, hein, donc c'est destruction partielle en fait, hein, c'est pour des raisons historiques, c'est uniquement pour des raisons historiques, puisqu'on détruit une partie du reste. Donc on peut aussi considérer que pour des raisons historiques, on puisse en conserver un peu plus que ce qui est prévu. Voilà. Après, tout dépend effectivement du lieu, des conditions, aussi des moyens dont on dispose. Hein. Quand vous êtes saturé, c'est compliqué de conserver plus que ce qu'on doit conserver. Voilà. Donc c'est ce qui est D'où l'importance, évidemment, d'avoir des espaces libres, parce que ça permet justement d'avoir, d'avoir plus de latitude dans la gestion de nos archives. Voilà. Mais on a comme ça, dans un précédent poste, on considérait que tout ce qui était concerné à l'année 1968 devait être conservé, même si c'était rien passé, vous voyez, justement, parce que si un jour un historien voulait s'intéresser à l'année 1968 dans le département, eh bien, il avait tous les éléments à disposition. En revanche, 67 était détruit, 69 était détruit. Vous voyez, donc, on peut jouer avec ça, parce qu'il faut jamais, il ne faut jamais oublier que les archives, on les conserve pour plusieurs raisons, hein, pour les raisons droits des personnes, bonne gestion des administrations, parce qu'on a besoin de savoir comment le pont a été construit, par exemple. Vous voyez, quand on veut retravailler dessus, il est bien utile d'avoir les plans du pont au XVIIIe siècle, ouais, etc. Oui, ou les conditions, les matériaux utilisés, est-ce qu'il y a des pieux, des micro-pieux, enfin des pieux, etc. Vous voyez, donc tout ça est important, mais on conserve aussi pour des raisons historiques. Et comme on ne sait pas ce que les historiens vont étudier dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, on a une vision assez large de ce qu'on doit conserver. Alors quelquefois, on s'aperçoit que ce qu'on conservait n'avait aucun intérêt. Donc, et si c'était éliminable, à ce moment-là, on l'élimine. Mais quelquefois, on a des surprises très agréables de documents qu'on a conservés alors qu'on aurait pu les détruire et qui présentent un intérêt. Personne n'est capable aujourd'hui de dire ce que la science historique étudiera dans 30 ans, 40 ans, quelles seront les méthodes qui seront appliquées. Voilà. Moi, j'étais d'une génération, on était dans l'histoire quantitative et sérielle. Hein, on s'intéressait beaucoup aux documents qui étaient, donc, comme on dit, sériels. C'est-à-dire, en fait, on avait des grandes séries sur plusieurs années de documents statistiques, souvent, etc. Et puis, très vite est arrivée une autre école qui était ce qu'on appelle la micro-histoire, qui a totalement... modifier la manière d'aborder la pratique historique en s'intéressant en particulier à des événements donnés, à des personnages, etc. Et là, il fallait au contraire avoir des documents des documents plutôt qualitatifs, ce qu'on n'avait pas forcément gardé. Nous, on a un problème, par exemple, aux archives départementales, on a très peu de dossiers complets sur la justice au XIXe siècle. On a très très peu, on a toutes les grandes affaires de justice qui se sont passés dans le département au 19e, les cours d'assises, etc., on a très peu de choses dessus. Parce qu'à l'époque, les archivistes considéraient que ça n'avait aucun intérêt, c'était du fait divers, vous voyez, présentait aucun intérêt, donc ils ne conservaient pas. Et or aujourd'hui, avec la sociologie, l'histoire, etc., ce sont des sujets qui intéressent beaucoup. Et bien malheureusement, on ne peut pas... alors c'est très frustrant, parce qu'on voit dans les journaux, vous savez, les affaires qui vont passer aux assises avec tel drame, etc., et bien on a... très peu de documents d'archives du 19e pour évoquer ces faits-là. Et donc, tout ça est important. Et c'est pour ça que dans l'exposition, tout ça est raconté. Toute cette difficulté qu'on a... alors, il y a des textes réglementaires. Donc là, on les applique. Mais après, il y a toute la partie de l'appréciation, en fait, hein, de la directrice adjointe ou du directeur des archives ou du chef de service, hein, qui gère concrètement les archives, qui va dans les services pour récupérer les archives, pour dire, effectivement, est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. Et des fois, on a des discussions autour de sujets où, en fait, les chefs de service ne sont pas sûrs que l'élimination soit la bonne solution, ou à l'inverse. Et puis, quelquefois, il y a des documents qui sont un peu entre les deux. Vous voyez, on ne sait pas si, effectivement, ce document, cette typologie documentaire, ou ce document, il est dans la catégorie éliminable ou il est dans la catégorie à conserver. Voilà. Donc, vous voyez, on a tous ces états d'âme, hein, qui sont problématiques. Ces états d'âme, on les a aussi dans la communication. Hein. C'est-à-dire que quand les gens, les personnes, ce qu'on appelle nous les lecteurs, viennent en salle de lecture pour consulter les archives, on a aussi des réglementations qui disent, qui explicitent ce qu'on peut montrer et ce qu'on peut ne pas montrer. Et puis quelquefois, ben, on est dans l'entre-deux. Et on ne sait pas si ce document-là, il est dans la catégorie à ne pas montrer, hein, avant tel délai, ou au contraire... Il est communicable. Vous voyez, donc tout ça, c'est des problématiques d'archivistes, hein, qui sont importantes parce que ça conditionne évidemment la communication de celles-ci. Car si on ne les a plus, on ne peut plus les communiquer. Et quand on les a, il y a des règles aussi à appliquer. Et donc il y a aussi cette question-là qui se pose, qui quelquefois crée des frustrations chez nos lecteurs, hein, qui viennent pensant qu'ils peuvent consulter très facilement telle chose et qu'en réalité, bah, c'est un peu plus compliqué. On a eu le débat là sur les cahiers de doléances récemment, hein, donc qu'on conserve nous, et de savoir s'ils étaient communicables ou pas communicables. Voilà, donc il y a eu
des débats dans le service.
Voilà, il y a eu des débats dans le service aussi. Puis après, il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'un cahier de doléances, vous voyez, parce qu'il y a aussi la question des gilets jaunes. Alors est-ce que ce qu'ils ont produit, c'est un cahier de doléances ou pas? Enfin, tous ces débats ont eu lieu. Bon, ils ont eu lieu au niveau national, hein, donc nous on a appliqué après les règles, mais vous voyez, ce n'est jamais simple de communiquer quelque chose. Ce n'est jamais simple aussi de dire qu'on va conserver quelque chose ou pas le conserver. Et donc, toutes ces questions sont évoquées dans la première partie.
D'ailleurs, Jean-Christophe Labadie et moi-même, on part souvent d'un principe, mais qu'il faudra peut-être expliciter un petit peu, c'est que, en fait, tout le monde sait ce que sont les archives. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est aussi un travail pédagogique auprès du grand public que nous souhaitons faire à travers cette exposition. Voilà, donc en fait, la première partie, et même la toute première partie de la première partie, en guise d'introduction, on propose justement à nos visiteurs de découvrir ce que sont réellement les archives. Parce que, on est toujours dans des clichés, ce sont des vieux papiers, des vieux registres, c'est plein de poussière, de toiles d'araignée, c'est tout ce qui est vieux, ancien, et sur papier ou parchemin. Eh bien, en fait, le Code du patrimoine va vous détromper, voilà, parce que dans son article L211-1, nous avons une définition des archives qui est « Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. » Alors, on a dit ça, on a tout dit, et on n'a rien dit du tout. C'est à la fois très précis et puis extrêmement vaste, parce que les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données. C'est-à-dire que maintenant, à l'ère de l'informatisation d'à peu près toutes nos activités, eh bien oui, les données que nous produisons, ce sont des archives. Elles sont destinées à pouvoir être conservées et à pouvoir être retrouvées et consulter. Donc là, c'est aussi un défi pour nous, et on en parle dans une partie de l'exposition aussi, que faire de toutes ces archives électroniques? Comment les traiter? Comment les garder, les conserver, et après les communiquer au public? Ou même aux administrations 10 ans plus tard, quand on a changé de logiciel? Là, c'est vraiment une question majeure pour nous, archivistes. Ensuite, l'élément important, c'est le « quelle que soit leur date ». C'est-à-dire que oui, bien sûr, le rouleau de Saint-Paul, 13e siècle, c'est une archive, ancienne. Voilà, et là, c'est des archives vénérables du Moyen-Âge, telles qu'on peut les imaginer, ou telles que souvent le grand public se les imagine. Mais en fait, un collègue qui, au département, ouvre un document pour taper du texte, ou créer un tableur pour rentrer des chiffres, c'est aussi une archive. Et ce n'est pas parce que le document est ancien que ce n'est pas déjà une archive. En fait, nos collègues dans les administrations, qu'elles soient des collectivités territoriales ou de l'État, à partir du moment où ils commencent à travailler et à produire de l'information, de la donnée, créent des archives. Voilà. Le point suivant, c'est quel que soit leur lieu de conservation. Alors, parce que oui, l'archive, elle a déjà son caractère d'archive, qu'elle soit dans votre ordinateur ou qu'elle soit dans le service d'archivage électronique du département. Voilà, ce n'est pas qu'elle soit dans un bureau ou au fin fond d'un de nos dépôts. Ce sont quand même des archives, et la législation en la matière s'y applique. Et le dernier élément très important qui mérite d'être explicité, c'est produit ou reçu dans le cadre de l'activité, donc des personnes publiques ou privées. C'est-à-dire que une archive, ça c'est quelque chose que personnellement je trouve assez extraordinaire. On ne décide pas de créer des archives. En fait, c'est parce qu'on a une activité, parce qu'on vit, tout simplement, des archives sont produites. Je prends souvent le cas du déménagement. On déménage, on s'installe dans un nouveau lieu, on loue, imaginons on loue, on a un bail. Voilà. Mais le bail en lui-même, c'est une archive. On a de l'électricité, on a un abonnement, on va avoir des factures, on a un abonnement pour l'eau, on a, voilà. Et tout ça, ce ne sont pas des choses que vous décidez de produire, c'est juste parce que vous avez un nouvel appartement. Ça crée forcément des liens, des liens avec des administrations ou des institutions, des entreprises, et ça crée spontanément des documents. Il y a aussi un exemple que je prends souvent, c'est un enfant qui naît. Voilà. Heureux événement dans une famille, un bébé arrive. Et bien, il faut aller l'inscrire à l'état civil. Donc déjà, il y a une trace administrative de son existence. Il va être inscrit à la crèche, donc il va avoir un dossier à la crèche, il va avoir des visites chez le docteur, donc il va peut-être avoir un dossier médical dématérialisé. Il va grandir et petit à petit comme ça, parce que lui n'a décidé de rien, il s'est contenté de naître, voilà. Et en fait, parce qu'il existe, parce qu'il est là, il y a tout un tas de documents qui vont quelque part raconter aussi son existence, qui vont être produits. Alors, tous ne vont pas être gardés, bien sûr, mais il y a des documents, des informations qui sont collectées sur chacun d'entre nous et qui, d'une certaine façon, racontent le film de nos vies.
Voilà, donc pour résumer, en fait, hein, donc l'archive, elle est produite dès le départ. Hein, donc vous écrivez à une administration pour vous demander quelque chose. À partir du moment où ce courrier arrive dans l'administration, ça devient une archive publique. Parce qu'il y a aussi la caractérisation archive publique, archive privée. Quand vous avez, par exemple, un bail que vous signez avec un propriétaire, c'est une archive privée, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans nos archives, hein, puisqu'on a aussi, par des systèmes de dons, des personnes qui nous amènent leurs archives, qui racontent aussi des vies anciennes, des vies quotidiennes, etc. Vous voyez, par différents éléments, ça peut être des menus, vous voyez, des menus de mariage, des choses comme ça, vous voyez, qui d'ailleurs sont très utiles pour nous, parce que justement, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les archives publiques. Donc quand on veut s'intéresser à la vie des familles, par exemple, eh bien, on a besoin de ce genre d'informations. Voilà. Donc oui, il y a les photographies, etc. Voilà. Il y a tous ces documents sont des archives, et il n'y a pas le caractère d'ancienneté, ce qui est important. Hein, c'est vraiment... ce qui est difficile à faire admettre aussi aux agents, c'est qu'à partir du moment où ils produisent quelque chose dans le cadre d'une activité quelconque, qui soit en lien évidemment avec leur fonction, hein, puisqu'il faut distinguer aussi, par exemple, le courriel public sur votre boîte mail, même si vous êtes dans une administration, et puis le courrier que vous envoyez pour répondre à l'école, vous voyez, parce que votre fils a été absent. Oui, là, c'est très différent. Oui. Et pourtant, c'est le même lieu, le même support, le même, etc. Mais on distingue là archives publiques, archives privées. Voilà. Donc, on a toutes ces catégorisations, hein, qui sont importantes pour nous. Je crois qu'on va écouter un peu de musique.
C'est ça.
Voilà. C'est la pause musicale. Voilà. Donc, avec Kate Bush. Donc, alors, il n'y a pas de neige encore dehors, mais donc, comme l'hiver approche à grands pas, puisque les températures quand même se sont un peu refroidies, donc on va écouter donc une musique, voilà. Braille.
Quintus-Lucerne. Serre.
Recommencer à vous parler à nouveau de notre exposition Les Archives entrent en scène, dont donc l'inauguration a lieu le jeudi 11 décembre à partir de 17h, en lien avec l'inauguration de notre bâtiment, notre nouvelle extension donc de magasins d'archives aux archives départementales. Dans cette exposition, nous vous proposons deux petits films qui sont réalisés, donc le premier par Bernard Chouyal, qui présente le déménagement des archives, parce que suite à l'inauguration, la mise en pas l'inauguration, mais à la réception du bâtiment, pardon, de l'extension des archives, nous avons pu justement déménager ces archives qui étaient un peu dispersées dans ces nouveaux magasins. Et donc nous avons un réalisateur qui est venu filmer la pose de la première boîte des archives dans notre nouvelle extension. Donc ce premier film vous sera proposé dans le cadre de notre exposition. Et le second, en fait, est une présentation grande diversité de documents, donc choisis aussi par nos collègues archivistes, de manière à pouvoir voir un panel très complet et très diversifié de tout ce que nous pouvons vous proposer à la consultation en salle de lecture. Voilà, c'est un film qui est fait pour découvrir, vraiment découvrir les archives sous toutes leurs formes et, disons, surtout les sujets possibles. Pour agrémenter un petit peu votre parcours de visiteur dans cette exposition, nous vous proposons quelques jeux. Alors, des jeux qui sont adaptés pour différents âges. Nous avons des jeux pour les enfants, voilà, qui pourront, par exemple, s'amuser à aller chercher les petites vrillettes qui sont cachées dans les textes de l'exposition. Alors, qu'est-ce qu'une vrillette ? La vrillette, c'est l'ennemi des archives. C'est un insecte qui mange le papier, qui mange les colles anciennes, qui dévore tout ce qui est fait à base de cellulose. C'est une catastrophe. Et quand on en a dans les archives, on est vraiment, vraiment pas content, anxieux, et il faut prendre des mesures, des actions fortes et rapides. Donc, il y a des petites vrillettes qui sont, je vous rassure, ce sont des photos de petites vrillettes qui sont dissimulées sur les panneaux des expositions. Donc, les enfants pourront les retrouver les mots devant lesquels nos petits insectes ont été positionnés pour reconstituer une phrase. Et en fait, si les enfants arrivent à trouver la phrase qui s'est cachée, nous pourrons à vous gagner un petit lot, un petit jeu. Le deuxième jeu que nous proposons pour les enfants, c'est de découvrir donc, et de toucher les papiers, les supports de l'écrit ou les supports des archives. Donc on a plusieurs dispositifs pour ça. C'est ça qui est un peu original aussi, c'est que souvent on dit « Ah non, les archives c'est ancien, surtout il ne faut pas toucher, il faut faire très attention, il faut mettre des gants, voilà. » Et là, en fait, on va proposer aux enfants et aussi aux adultes de pouvoir toucher les différents supports, le parchemin, le papier japon, les papiers anciens, qui ont des textures toujours un peu particulières et qui nous sont devenues inhabituelles. Les enfants pourront aussi réaliser les nœuds d'archiviste. Alors le nœud d'archiviste, c'est un peu comme le nœud marin, mais il a la particularité de devoir se faire et se défaire très facilement. Voilà, parce qu'il s'agit de maintenir l'emballage, la protection des documents d'archives légèrement serré autour des documents, mais pour la consultation, il faut pouvoir quand même le défaire rapidement, et puis quand on a fini de consulter, il faut arriver à le refaire aussi facilement. Donc vous avez des petits tutoriels pour apprendre à faire le nœud d'archiviste. Et puis mes collègues se sont beaucoup amusés à faire un petit train pour reconstituer l'émission des archives. Donc, il y a la version pour les enfants et la version pour les adultes. Alors, pour les adultes, on a monté la barre un petit peu plus haut pour la difficulté des jeux. Alors, il y a tout d'abord un vote qui vous est proposé parce que nous allons vous proposer dans des vitrines un certain nombre de documents qui sont des originaux, mais les mesures de conservation et des archives sont telles qu'on évite de les exposer pendant plus de 2 mois parce qu'il y a toujours de la lumière du soleil, des UV qui peuvent les abîmer. Donc, on va avoir une rotation de documents. C'est pour ça qu'il faut venir plusieurs fois visiter notre exposition. Et à peu près tous les 2 ou 3 mois, les gens vont pouvoir voter pour leur archive préférée. Donc au bout de 2 ou 3 mois, le public va élire son archive qui sera mis en valeur sur notre site internet et puis aussi dans une partie de la salle d'exposition. Et après, c'est comme les concours des Miss. Voilà, on va élire les archives de chaque période. On va élire l'archive représentative des archives départementales. Et ça, justement, c'est pour le public. Et le dernier jeu, pour les adultes, qui est un peu plus... c'est celui dont je vous parlais, qui est un petit peu plus difficile. C'est que, comme nous avons beaucoup d'humour et que nous aimons beaucoup le cinéma, nous avons caché dans les différents panneaux d'exposition, en plus de nos petites images de vrillettes, des répliques de films. Voilà, il y en a 33 répliques de films qui sont dissimulées dans notre exposition. Et donc, nous vous proposons un jeu concours, c'est-à-dire il faut retrouver les répliques de films, nous dire de quel film ils sont issus, le réalisateur et l'année de sortie en salle. Et justement, pour les meilleures réponses, pour les réponses qui seront le plus complètes, vous pourrez gagner des lots qui seront distribués pour les Journées du patrimoine 2027. Donc, il y a quand même 33 répliques de films. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même si on est tous un peu férus de cinéma, je sais que moi, je ne les aurais pas toutes trouvées parce qu'on n'a pas tous les mêmes références. Celle que Monsieur Labbadie a cachée, je l'aurais peut-être trouvée, mais je n'aurais pas su instinctivement de quel film elle est. Il y a aussi d'autres collègues aussi. Mais Jean-Christophe Labbadie n'aurait pas forcément trouvé les répliques que moi j'ai cachées. Donc il faut venir en famille.
Ça attise notre curiosité, tout ça.
Oui, c'est un exercice très difficile, en fait. Ouais. Hein, parce que, j'en ai mis une dans un des textes. Ouais. Je crois que personne ne la trouvera, franchement. Ouais. Ah oui, elle est très, très difficile à trouver.
Ah,
oui, parce qu'elle est assez banale.
Cinéphile.
Et elle rentre bien. Après, le but, c'était aussi de la dissimuler dans le texte. Donc, elle ne tombe pas comme ça, oui, ça serait trop facile. Donc, c'est vrai. Et puis après, comme le disait Marie Brunel, ça dépend beaucoup aussi des sensibilités, des intérêts. Vous avez du fantastique, vous avez... du cinéma classique, vous avez du cinéma américain, des français, etc. Vous voyez, donc il y a une très très grande variété. Donc franchement, il faut être un cinéphile...
aguerri.
Oui, vraiment aguerri pour être capable de retrouver ces 33, hein, donc dites 33, hein, donc répliques de cinéma. Franchement, c'est la chose la plus difficile qui soit. Mais c'est un exercice plutôt sympathique parce que justement, ça permet de lire attentivement les textes en réalité. Puisque pour retrouver cette réplique, il faut être...
C'est vraiment... malin ça, c'est malin.
Oui, oui, c'est une idée de Marie Brunel. Hein, donc d'insérer, puisque effectivement, ça, on n'a pas le choix là. Il faut vraiment lire le texte. Quoi. Vous ne pouvez pas faire le survoler, le prendre en diagonale. Voilà. Donc c'est aussi une façon de faire rentrer les personnes qui viendront visiter donc, l'exposition ou qui liront l'ouvrage, puisque dans l'ouvrage, il y a évidemment toutes les répliques qui ont été conservées. Hein, donc,
tout à fait.
Voilà, donc elles sont dans l'ouvrage, donc on peut prendre aussi son temps tranquillement chez soi, au café, en vacances, quelles que soient les conditions, au petit déjeuner, vous voyez, pour, en lisant un texte, c'est-à-dire où est donc ma réplique de cinéma, et puis après, la trouver, et après, trouver le film. Bon, après, avec Internet, c'est beaucoup plus facile hein, maintenant, puisqu'on peut taper... une fois qu'on a trouvé quelque chose, on peut éventuellement la retrouver assez facilement. Mais ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas simple. C'est un exercice très difficile. Je vous redresse la parole, Madame Brunel.
Oui, et pour tous les participants... Alors, on acceptera une seule participation par personne, parce que sinon, c'est trop facile de venir une fois, deux fois, et puis de mettre plusieurs bulletins de participation. Donc, une seule participation par personne. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Oui. Dire qu'en fait, une seule participation, mais on peut venir plusieurs fois
pour préparer
sa participation. Et puis après, donc, il y a effectivement donc, des lots qui seront distribués pour ceux qui ont réussi. Mais franchement, la barre est haute. Hein, pour le coup, c'est une vraie gageure. Je suis pas sûr que quelqu'un réussisse à trouver les 33, à moins de taper tous les textes, de retaper tous les textes sur Internet pour faire des recherches. Et malgré ça, je crois... Après, parce que franchement, elles sont très très bien dissimulées, elles sont très très bien cachées dans les textes, elles ne tombent pas comme ça, quoi, vraiment. Donc,
Oui, elles ont vraiment été insérées le mieux possible dans les textes pour être visibles, mais un peu invisibles quand même. Et donc, pour tous les participants, lors de la clôture de l'exposition, rassurez-vous, vous pourrez avoir la petite fiche avec toutes les références de cinéma qui sont dans le texte. Voilà, nous, pour l'instant, on garde ça bien au chaud dans nos dossiers, dans nos archives intermédiaires, donc. La solution à ce jeu pourra être publiée sur notre site internet, et puis vous pourrez aussi venir chercher... ce document, donc, à l'accueil des archives départementales, quand le jeu sera fini.
Voilà, donc c'est tout oui, on a essayé de trouver donc plusieurs moyens pour effectivement intéresser du petit train donc pour les enfants ou grand train pour les adultes. Hein. Alors ce n'est pas comme vous savez dans le, je ne sais pas si vous vous rappelez l'interlude hein, où il y avait le petit train qui circulait là. Vous voyez donc le nôtre ne bouge pas malheureusement, mais il est représenté et donc avec un système de gommette en fait. Hein, donc il suffit de reclasser en fait nos missions hein, puisque c'est le but aussi. Hein, c'est de faire... Moi, on en parlait quand on a publié notre catalogue. C'est en fait, on raconte notre métier, en fait. Hein. C'est presque, j'allais dire, un catalogue publicitaire hein, pour devenir
archiviste.
Pour devenir archiviste, en fait. Hein, puisque c'est vraiment... On fait notre autopromotion, hein, d'une certaine manière. Voilà. Mais... vous savez, on arrive quelquefois comme ça, moi ça fait 15 ans que je suis ici, on arrive aussi à un stade où des choses où il faut aussi raconter notre métier, quoi, voilà. Ce qu'on n'avait jamais fait finalement, hein, on le montrait parce que de manière indirecte, mais cette fois-ci c'est vraiment, on le pose directement, voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille, voilà quels sont nos centres d'intérêt, quelle est notre activité, parce que comme le disait Marie Brunel, c'est en fait, il y a beaucoup de lieux communs, mais comme toujours, comme tout, sur tous les métiers d'ailleurs, hein, le lieu commun sur les archivistes. Et à chaque fois qu'on fait visiter le service à des groupes qui ne connaissent pas le... En fait, ils sont surpris, hein, vraiment, par déjà la propreté des lieux. Alors, en fait, il n'y a pas de poussière, hein, très peu, hein, puisque la poussière est notre ennemi, en fait. Hein,
c'est
voilà, il n'y a pas d'insectes. Les insectes, on les contrôle. Hein, on a des systèmes de comptage pour savoir quels insectes on trouve chez nous. Et en saison, en réalité, des mouches, hein, en été, voilà, mais on peut aussi trouver d'autres insectes. On a plein de systèmes comme ça qui justement, permettent d'assurer notre fonction, qui est donc celle de la conservation. Et puis, donc... dans la deuxième partie de l'ouvrage, donc, on raconte des histoires. Donc, alors après, chacun avec sa sensibilité, hein, donc ses intérêts. Pour ma part, moi, j'en ai raconté deux, hein, si mes souvenirs sont bons. Une qui s'appelle Série Noire, hein, puisqu'on est dans le...
dans le crime.
Voilà, dans le crime, hein, c'est le crime de Valensole. Donc, que j'ai raconté sous forme d'un scénario, en fait. Hein, donc, avec extérieur, nuit, etc. Vraiment, hein, la structure d'un scénario, les dialogues, la mise en situation... etc. Donc, d'ailleurs, ce qui pose un problème, parce que ça prenait beaucoup de place.
Voilà. Jean-Christophe Labadie est la personne qui prend le plus de place dans cette exposition.
Et pourtant, je suis limité en termes de caractère. J'ai respecté le caractère, mais comme là, c'est une question de présentation, oui, donc je prends beaucoup de place. Voilà. Et donc, je raconte ce crime. Alors, à partir, évidemment, des archives dont on dispose, sachant que je n'ai pas utilisé tout, puisque un certain nombre d'archives ne sont pas communicables, et donc je m'applique la règle que les autres, qu'on applique aux autres. Hein, donc, je ne vais pas regarder, je ne vais pas divulguer quelque chose que les autres ne pourraient pas divulguer. Donc, en fait, j'ai utilisé beaucoup la presse. Hein, c'est un sujet que je connais bien. Que c'est une histoire qui est très connue, hein, puisque c'était l'un des crimes les plus importants. C'était le crime de référence avant l'affaire de Lurs. Hein, donc, il a été largement couvert par la presse. On le trouve sur Internet, vous trouvez facilement.
Il date de quelle année
1929. Enfin, et sachant aussi que c'est le dernier guillotiné à Digne, hein, le jeune homme, l'un des deux jeunes hommes qui ont tué cette famille à Valensole, donc qui avait juste 18 ans, était le dernier guillotiné à Digne. Hein, voilà, donc c'est une histoire très tragique, évidemment, et qu'on connaît, donc je dis par la presse. Il y a eu aussi un documentaire qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps, qu'on peut trouver sur des chaînes câblées. Voilà, c'est vraiment... voilà. Et l'autre histoire, c'est justement une archive qu'on n'aurait jamais dû avoir. C'est une petite note. Vous savez que normalement, quand quand vous travaillez, vous écrivez des petits bouts de papier. Vous savez, vous récupérez des bouts de papier pour vous dire, voilà, ne pas oublier de faire ça, voyez, etc.
Les post-it.
Voilà, ouais, vraiment. Hein, alors moi, je n'utilise pas de post-it, mais j'utilise des débris de papier. Vous voyez, on tourne le papier, le dos est blanc, donc on l'utilise. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, c'est une petite note qui date de la guerre, de 1942, qui, en fait, a été rédigée par le chef du bureau de la police et des étrangers de la préfecture des Basalpes à l'époque, et qui a trait donc à la déportation des Juifs, donc à la rafle d'août 42, hein, qui est le pendant de la rafle de juillet 42 de Paris, hein, donc la rafle du Veldiv, hein, qu'on appelle la rafle du Veldiv, et qui raconte en fait, dit très peu de choses, hein, c'est vraiment une toute petite note, mais qui raconte en fait vraiment une histoire tragique, en l'occurrence, puisque après la rafle d'août 42, cette rafle n'a pas donné les résultats escomptés, hein, en termes de volume de personnes arrêtées. Donc les autorités Vichy demandent au préfet d'accentuer, évidemment, de rechercher ceux qui ont échappé à cette rafle. Et donc c'est une petite note où on a des horaires, des lieux de Vichy, une demande de Vichy qui dit on recherche, je voudrais savoir ces trois personnes, ces trois familles, ce qu'elles sont devenues, ou quatre
personnes.
Quatre,
oui, il y a quatre personnes sur la note, mais deux de la même famille.
Voilà. Et donc, savoir ce qu'elles sont devenues. L'agent qui est à la préfecture à Digne se renseigne, appelle la sous-préfecture de Fort-Calquier. Donc, on a les horaires, hein, les dates et les horaires. Mais oui, c'est vraiment une toute petite note. C'est un petit bout de papier. Et donc, il dit répondu Vichy à telle heure. Voilà. Et puis, je me suis intéressé au sort d'une de ces familles, hein, qui est évoquée. la famille Grève, dont je sais la suite de l'histoire grâce à une publication qui a été faite, car dans cette famille, il y a eu la mère qui a réussi à échapper in fine aux rafles allemandes, mais aussi italiennes, puisque la République de Salo, hein, puisque c'était réfugié pas très loin d'Italie, la République de Salo, donc fasciste, a aussi fait déporter des juifs. Et donc on a toute cette histoire qui est racontée grâce à cette toute petite note qui n'aurait jamais dû être conservée. Et à l'époque, c'est une note que j'avais présentée lors d'une exposition en 2012, vous voyez, donc il y a très longtemps, qui s'appelait Vichy et les Juifs. Et un préfet m'avait dit, il faut faire toujours très attention à ce qu'on écrit, vous voyez, parce qu'on ne se rend pas compte des fois, mais c'est ce qu'on explique aussi aux agents aujourd'hui, l'archive que vous écrivez aujourd'hui, vous n'avez pas conscience qu'elle présentera peut-être un intérêt dans 50 ans, vous n'en savez rien, le scribe... Le rédacteur d'un document au XVIIIe siècle n'avait aucune idée, ne pensait sans doute pas que ce qu'il écrivait à ce moment-là allait un jour intéresser soit un historien, soit un simple lecteur d'un service d'archives départemental. Vous voyez, on ne sait jamais ce qui peut présenter un intérêt. Et donc, c'est vraiment, vous voyez, l'exemple type d'une petite archive, d'un tout petit document qui fait... qui est un format, même pas un format A5, vous voyez, qui est vraiment un tout petit bout de papier, de très mauvaise qualité en plus, parce qu'on est pendant la guerre, et le papier pendant la guerre est très mauvais, qui est en plus une récupération, c'est-à-dire au dos, il y a quelque chose qui est imprimé, et qui aurait dû être, vous savez, mis une petite boulette et fini à la poubelle, et qui est resté dans le dossier, parce que ça rentrait dans un dossier beaucoup plus large, qui racontait donc l'histoire de la répression des Juifs, et de la déportation, et de l'extermination des Juifs, qu'on devrait d'ailleurs, qu'on évoquera sans doute aussi, je pense que je ferai un jour une conférence sur ce sujet, parce que en fait, on ne se rend pas compte de l'importance, dans le département, des arrestations. Alors, en août 1942, ce sont les Juifs dits étrangers ou apatrides, et puis ensuite, jusqu'en mai 1944, des Juifs français, en particulier la rafle de Reillan, 54 Juifs arrêtés, qui est la plus importante rafle de la fin de la guerre en France. Hein, donc on n'a pas conscience de ça. Donc c'est un phénomène qui est évidemment très intéressant, très, très important. Je veux dire, à la fois intéressant d'un point de vue historique, évidemment, mais très important d'un point de vue de l'histoire, hein, puisque ce sont des événements qui sont essentiels pour la compréhension de cette période. Et donc, ce petit document raconte cette tragique histoire.
Nous vous invitons donc à venir ce soir, le jeudi 11 décembre, à partir de 17h, donc au vernissage de notre exposition, qui sera précédée par l'inauguration de l'extension donc des magasins des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Dans le cadre de la présentation de l'exposition, vous aurez le plaisir d'assister à une lecture d'archives par la compagnie mobile, qui durera environ 20 minutes. Et une très courte visite de l'exposition vous sera aussi proposée, donc dans le cadre de cette inauguration de notre nouvelle exposition. Donc qui va se prolonger jusqu'à la Toussaint 2027.
Voilà, donc nous vous invitons tous à venir très nombreux, hein, puisque c'est pour nous un événement très important, puisqu'on pour la première fois on cumule deux événements, et puis pour un service d'archives, d'avoir une extension, c'est évidemment quelque chose de considérable. Hein, ça change. Vous savez, quand on voyait construire cette extension, quand même, ça a duré plusieurs mois. Hein, on avait tous conscience, évidemment, du changement que ça allait apporter, hein, dans nos pratiques et dans notre confort de travail et surtout pour la conservation, hein, donc de l'histoire et de la mémoire du département, puisque c'est ce à quoi servent les archives aussi.
Jean-Christophe Labadie, merci. Marie Bonnel, merci. Et donc à ce soir, jeudi 11 décembre 2025, à partir de 17h, aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-Bains. 2 rue du Trélus, c'est bien ça. Voilà. Merci et à bientôt. Vous revenez le mois prochain ou...
Oui, bien sûr. Oui, oui, voilà. Oui. On évoquera le mois prochain nos travaux, puisque là, on est fermé pendant 15 jours et on a on fait d'importants travaux en interne qui sont de très divers, très diversifiés et qu'on évoquera donc lors de notre prochaine visite en janvier. Et en attendant, on souhaite à tous ceux qui nous écoutent de bonnes fêtes de fin d'année.
Et ben voilà, bonne fête à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Au revoir et merci.
Merci.